Il est 12h29 et nous sommes une foule compacte pressée dans la cathédrale de Strasbourg, à la droite de son transept, immobile et silencieux, les yeux fixés vers l'horloge astronomique. Cela fait entre 30 minutes et une heure que nous sommes là, malgré le froid, malgré l'attente, pour venir assister au spectacle quotidien qui se joue ici depuis 1842, date à laquelle l'horloge a été remise en service grâce aux travaux de celui qui avait dès son enfance décidé de consacrer sa vie à la réhabilitation de l'horloge de Dasypodius, Jean-Baptiste Schwillier. Le petit ange assis à gauche du cadran central bat sa cloche. Le vieillard qui se trouve deux étages plus haut, au-dessus de l'astrolabe et du cadran des phases de la lune, lui répond immédiatement. Au troisième coup, l'ange de droite retourne son sablier. Au quatrième, le vieillard passe devant la mort et celle-ci se prépare à battre de la main droite un os en guise de baguette les 12 heures du temps. La faux bien droite dans sa main gauche. Le silence de la cathédrale se fait sépulcral. Ensuite, les 12 apôtres passent un à un devant le Christ, en s'inclinant devant lui tandis qu'il les bénit en baissant à chaque fois la main droite, tenant la croix comme un sceptre de la main gauche. Au passage du quatrième apôtre, le coq, placé sur la tourelle de gauche, bat 3 fois des ailes et chante pour la première fois. Au passage du huitième apôtre, il chante pour la deuxième fois. Quand vient Judas Iscariote, le 12e apôtre, Jésus donne une dernière fois sa bénédiction. Le temps a trouvé ici son balai de symboles. Quand les automates de Schwillier s'activent pour sonner le mi-temps de la 12e heure du jour, c'est le cœur de la ville de Strasbourg, si en sa cathédrale, qui cherche son pouls. Humanité dans le texte, un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Nous sommes maintenant avec Sonia Cady, professeure certifiée de lettres classiques au Collège Henri Meck de Molsheim et au Collège Bugatti. Sonia Cady a amené avec elle 4 de ses collégiens avec lesquels elle a travaillé à la traduction du texte présentant l'horloge astronomique. Sonia Cady, pouvez-vous nous expliquer en quoi a consisté votre travail ?
Alors tout d'abord, c'était un travail complet et complexe puisque effectivement ils sont 4 ici, mais en tout il y a une 60aine d'élèves qui ont travaillé sur ce texte, à sa traduction et à son commentaire, ce qui était un travail tout à fait nouveau pour des collégiens. J'ai donc pris le parti de les faire travailler sur la traduction en regard du texte latin, afin qu'ils puissent faire la comparaison, puisque pour certains, notamment les 5e, c'était leur première découverte du latin. Donc c'était un texte difficile. Et puis ensuite, avec les 4e et avec les 3e, j'ai choisi un extrait sur lequel on s'est vraiment attardé. C'est la description du coq, parce que quand on parle de l'horloge astronomique, c'est vraiment le coq qui est un élément emblématique. Et c'est tout de suite ce qui les a frappés quand je leur ai montré des vidéos de l'horloge astronomique qu'ils ne connaissaient pas, bien qu'étant alsaciens. Donc ça a été aussi l'occasion pour eux de découvrir le patrimoine. On a travaillé sur cet extrait. Alors ce sont d'abord les 5e qui ont lu l'extrait, donc c'était pour eux un premier exercice de lecture du latin. Alors, je ne vous cache pas que j'étais un petit peu inquiète parce que généralement, quand on commence le latin en 5e, on leur apprend salve magistra, valé, valete, etc. Et là, eh bien, j'ai pris le parti de partir vraiment du latin classique. J'avais un petit peu peur parce que ce n'était pas du tout ludique, mais contrairement à ce que je pensais, ça les a rassurés. Ils se sont sentis pris au sérieux et je pense qu'ils pourront en témoigner ici. Ça leur a fait plaisir de travailler sur un texte que des lycéens et des étudiants traduisaient. Ils se sont sentis faire partie d'une famille. C'est ce que je leur dis souvent quand ils commencent le latin en 5e. Je dis maintenant, vous faites partie de la famille des latinistes. Ils se sont sentis héritiers d'une tradition et participants à une tradition. Et ça, c'est important. Et pour revenir sur ce que je disais par rapport au cinquième, contrairement à ce qu'on peut croire, alors on peut croire que les élèves qui commencent le latin en cinquième sont très contents, ils vont commencer une nouvelle langue. Mais en fait, les cinquièmes que j'avais cette année, ça les effrayait. Parce qu'en Alsace, ils font deux langues dès la sixième et donc ils avaient peur de commencer une troisième langue en cinquième. Et quand ils ont compris qu'en fait, ce n'était pas un cours de langue proprement dite, mais c'était aussi un cours de culture et d'histoire, ça les a rassurés. Donc, partant de ce petit extrait sur la description du coq, on a dégagé avec des cinquièmes des grands axes de lecture que les quatrièmes ensuite ont vraiment élargi à tout le texte pour travailler sur l'organisation d'un texte descriptif. Et ensuite, les quatrièmes et les troisièmes ont vraiment travaillé sur les effets de style pour aboutir au commentaire final.
D'accord. Vous avez fait un sacré travail. Et là, autour de la table, autour de nous, qui est présent? Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et dire depuis combien de temps vous faites du latin?
Moi, je m'appelle Raphaël et c'est ma deuxième année de latin.
Moi, je m'appelle Sarah et ça fait 2 ans que je fais du latin et je suis en quatrième.
Moi, je m'appelle Lino et ça fait 2 ans que je fais du latin et je suis en quatrième.
Moi, je m'appelle Mathis, ça fait 2 ans que je fais du latin et je suis en quatrième.
Un petit mot sur les raisons pour lesquelles vous avez choisi de faire du latin, que tout le monde n'en fait pas au collège. Vous, vous avez choisi d'en faire. Qui c'est qui veut commencer? Mathis?
Bah, parce que le latin, ça aide un peu pour le français et comme pour l'écriture et tout ça. Donc moi, je voulais un peu m'améliorer en français et les définitions. Et comme le latin, ça m'intéressait un peu, bah, je voulais découvrir.
D'accord. Parce que le latin, c'est l'étymologie, c'est une des racines du français. Je comprends. D'autres raisons, d'autres motivations?
C'est pour l'histoire du latin et pour l'histoire de Rome. Et pour apprendre une nouvelle langue, pour avoir des facilités, plus de facilités en français.
Je me tourne maintenant vers toi. Sarah, qu'est-ce qui t'a amené à faire du latin?
Moi, c'était surtout pour les facilités aussi en français, et parce que comme ça, j'apprenais une nouvelle langue, et je peux montrer aussi que être en quatrième ou en cinquième, ça ne veut pas forcément dire faire des matières comme tout le monde, et on peut prendre aussi des options.
Pour se distinguer un peu, être plus original. Oui, Sonia Kadi.
Je voudrais ajouter qu'il y a eu une petite lutte familiale.
Ah bon? Ça n'a pas été facile de convaincre les parents?
Non, pas trop, parce qu'au début, mes parents, ils n'étaient pas trop d'accord. Mais après, j'ai réussi à négocier et avoir pris le latin.
C'était quoi leurs arguments?
Que le latin, du coup, on ne le parlait plus, que c'était une langue morte et que ça va juste m'ajouter des heures... au collège, moi j'ai dit même si c'est une langue morte, si on est plusieurs à l'apprendre, ça c'est bien. Et après,
on va la ressusciter.
Oui, voilà. Et même si ça me fait plus d'heures au collège, au moins comme ça, je suis pas comme ceux de notre âge, toujours sur notre téléphone dès qu'on a du temps libre. Et comme ça, en même temps, je suis au collège et j'apprends de nouvelles choses.
Donc tu les as convaincus. Bravo. Alors revenons au travail que vous avez fait spécifiquement sur le texte de l'horloge astronomique. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu les difficultés ou le plaisir que vous avez pris à travailler sur ce texte? Oui.
C'était pour moi une première fois pour quelque chose comme ça, pour l'horloge. Et ça nous a appris beaucoup de choses sur l'histoire de la cathédrale et de l'horloge.
D'accord. Un autre commentaire?
Moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout l'horloge astronomique. Donc déjà, ça m'a permis de la découvrir. Et oui, j'ai beaucoup apprécié travailler sur le texte latin et sur la traduction, ce qui m'a aussi un peu aidé pour le français.
Donc, tu remplis tes objectifs de départ. C'est parfait. Est-ce que tu veux dire quelque chose?
Moi, j'ai beaucoup aimé de savoir qu'il y a eu 3 horloges différentes qui ont chacune eu des pièces en commun et réalisé que c'était un énorme travail de faire en sorte que chaque pièce aille ensemble et bouge à certaines heures.
Tu l'avais déjà vu avant de commencer à travailler sur le texte ?
Oui, une fois on était allé à Strasbourg avec mes parents.
D'accord, ça t'a donné envie de la revoir ?
Oui.
Bon, va falloir y aller alors.
Nous, on a travaillé avec le Bugatti aussi par rapport à la loge astronomique. Et on avait aussi fait des dessins par rapport aux différentes parties de l'horloge. Et le travail avec Bugatti, c'était bien parce que du coup, on voyait qu'on n'avait pas tous les mêmes méthodes de travail. Et du coup, c'était passionnant, c'était bien.
C'était quoi ces différentes méthodes de travail ?
Bah, qu'il y en a, ils voulaient commencer par le bas de l'horloge, parce qu'on devait la reconstruire avec des images. Il y en a qui voulaient commencer par le bas de l'horloge, il y en a qui voulaient commencer par le milieu, par en haut, et du coup, bah, après, on a trouvé un fonctionnement, et après, bah, c'est passé, et après, on a tous réussi à faire l'horloge.
Qu'est-ce qu'il y a dans la page suivante ?
Attends un peu, voyons. Mais qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ? Comment qu'est-ce que c'est ? Mais enfin, mon cher ami, vous n'êtes jamais sorti. Et ça, à votre avis, c'est quoi ?
Des aiguilles ?
Exactement, mon vieux. La petite aiguille et la grande aiguille. À quoi ça vous fait penser ?
Oh, des aiguilles, voyons. Une machine à coudre !
Mais non !
C'est pour faire les piqûres !
Mais non, voyons !
Alors, désolé, chère madame, mais je ne vois pas.
Une horloge !
Une horloge, évidemment, enfin !
Évidemment, une horloge ! Où avais-je la tête ?
On se le demande.
Alors, entrons maintenant dans le mécanisme de cette horloge. Pour l'instant, on a surtout décrit la brochure qui en fait la promotion, qui vante ses mérites extraordinaires, mais on n'a pas donné beaucoup de clés aux auditeurs pour comprendre comment elle marche. Et ça tombe bien parce que dans l'équipe réunie par Delphine Viellard, il y a un étudiant, Nan Maël, qui s'est intéressé à chacun de ses composants et qui va pouvoir nous aider à comprendre le mécanisme.
Alors déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est que l'horloge est entraînée par un système de poids suspendu à des cordes. Donc il faut les remonter assez régulièrement, mais à part ça, elle reste quand même assez autonome. Tout le génie qui se cache derrière cette horloge ne réside pas dans de potentielles innovations, dans des technologies jamais vues auparavant ou des choses comme ça. C'est surtout dans le fait que cette horloge concentre toutes les meilleures technologies disponibles à cette époque et toutes les sciences les plus avancées.
Il faut rappeler qu'on est à une époque de développement rapide des connaissances astronomiques,
oui,
et que Copernic vient de publier il y a quelques décennies son livre sur la révolution des corps célestes.
Oui. D'ailleurs, cet astrolabe représente la voûte céleste dans une projection géocentrique, non pas parce que le constructeur n'était pas d'accord avec Copernic, mais tout simplement parce que c'est un modèle plus pratique. Parce que de notre point de vue, nous sommes sur la Terre, nous voyons comme si nous étions dans un modèle géocentrique.
D'ailleurs, je crois qu'il y a un portrait de Copernic dans cette horloge.
Oui, en effet, sur un des piliers, il y a bien un portrait de Copernic. Sur cette horloge astronomique, on retrouve également un calendrier. Donc un calendrier qui est très ingénieux. Il est composé de deux disques. Donc un premier, donc le plus grand, celui qui se trouve à l'extérieur, sur lequel on peut voir les dates, d'une année. Donc, on en retrouve également un à l'intérieur, sur lequel sont représentés les jours de la semaine, les lettres dominicales. C'est un peu technique, mais c'est utilisé pour définir les jours de la semaine dans ce mécanisme. Et on retrouve également toutes les dates des fêtes mobiles qui sont calculées pour 100 ans. Donc le jour actuel est indiqué par une flèche tenue par la statue d'Apollon.
Alors il y a aussi un globe céleste dans cette horloge ?
Oui, en effet, il y a bien un globe céleste. C'est la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, celle qui m'a le plus fasciné sur cette horloge. Donc le globe céleste est quand même assez grand, vu qu'il fait 83 cm de diamètre. Il se situe au pied de l'horloge et représente le ciel nocturne. Alors, le seul détail qui est quand même à prendre en compte, c'est que pour retrouver le ciel qu'on peut observer, il faut s'imaginer être placé sur une sphère au centre de ce globe et observer les informations qui y sont écrites par transparence. C'était une représentation qui était à la fois assez pratique scientifiquement et aussi pour permettre à tout le monde de se représenter, de voir un peu ce qu'elle représente. J'aimerais bien un petit peu plus détailler sur le globe céleste,
oui,
parce qu'il y a notamment un élément que je trouve fantastique, qui a notamment été décrit par Frischlin, c'est la nouvelle étoile qui a été rajoutée par la main après la création du globe.
Donc, ça a été décrit comme Nova Sidera, donc nouvelle étoile, mais en réalité, ce n'est pas une étoile, c'est une supernova.
D'accord. Et donc, on sait maintenant que cette supernova était en train d'exploser à ce moment-là. Elle est encore visible aujourd'hui ou...
Alors, elle n'est plus visible. Elle a été visible à l'époque à l'ONU et notamment documentée par Tycho Brahe. Mais à l'heure actuelle, elle n'est plus visible. Il faut un télescope pour l'observer.
Delphine Viellard, vous avez tenu à conclure votre dossier Odysseum par le point de vue d'un artisan, le point de vue d'un horloger. Et j'aimerais qu'on termine ce podcast de la même façon. Expliquez-nous pourquoi vous avez ressenti le besoin de sortir du texte latin, de l'histoire, de l'astronomie, des sciences formelles et d'aller vers l'artisanat.
Alors, ce que j'avais compris du projet Humanité dans le texte, expliqué par Anne Cadan, c'est qu'il fallait le point de vue d'un professionnel. Et elle nous avait donné l'exemple d'un dossier fait en 2018, où il était question d'un accouchement. Et elle nous avait dit qu'un médecin gynécologue contemporain avait donné son point de vue. Et moi, ça m'était resté en mémoire et je ne pouvais pas imaginer un dossier sans le point de vue d'un professionnel. Et donc, pour l'horloge de Strasbourg, c'était vraiment facile. Il y a une famille de Strasbourg s'était occupée de son entretien, les Schmidt-Lutz. Et donc, j'ai contacté cette famille qui m'a donné les coordonnées d'un cousin qui était plus à même encore de m'aider. Et il s'avère que cet horloger habite tout près du lycée, à son magasin, vraiment pas loin du lycée, et que c'était vraiment quelqu'un d'idéal pour nous, qui allait donner son point de vue d'artisan sur cette horloge.
Eh bien, cet artisan est avec nous. Guy Schmidt est autour de la table au lycée Henri Meck, et on va maintenant lui donner la parole. Vous avez donc été sollicité par une professeure de latin pour vous exprimer sur un texte qui est un poème qui célèbre une horloge quand même assez extraordinaire. J'imagine que ce n'est pas une demande que vous avez tous les jours.
Non, tout à fait. J'ai été dans un premier temps étonné et ensuite un peu honoré de cette demande. Mon niveau de latin étant ce qu'il est, mais voilà, j'ai lu les textes en français et c'est vrai que mon point de vue, on va peut-être encore en discuter, moi je suis horloger dans un village du haut de la vallée de la Bruche depuis une quarantaine d'années. J'ai appris le métier d'horloger réparateur, le terme officiel c'est horloger rabilleur, et à mon petit niveau, voilà, je remets à niveau et des pendules, des montres, des réveils, du mieux que possible, mais très très loin du niveau d'exigence et du niveau de perfection de l'horloge de Strasbourg.
Alors avant que vous soyez sollicité, j'imagine que ce texte vous ne le connaissiez pas, mais vous deviez connaître l'horloge astronomique.
Tout à fait, je la connaissais, je l'ai visitée une fois ou deux dans mes petites années, à 20 ans, à la fin de mes études, et il y a une vingtaine d'années. C'est vrai que, voilà, je l'ai déjà dit, c'est une horloge de plusieurs siècles, qui est dans un écrin incroyable, qui est la cathédrale de Strasbourg, et dans cet écrin siège un deuxième écrin encore plus incroyable, c'est cette pendule astronomique, astrolabe, on peut l'appeler comme on veut, et qui a été vraiment conçue par des horlogers français pour l'essentiel, suisse je crois aussi, et c'est vrai que c'est un summum de faisabilité et de génie, je crois que je ne peux pas employer un autre terme, ces gens qui ont conçu ces choses-là sont des génies.
Et est-ce que des siècles après, environ 5 siècles, presque 5 siècles après la fabrication de cette deuxième horloge en tout cas, le métier d'horloger garde quelque chose de semblable à celui qu'on exerçait donc, au milieu du XVIe siècle?
Oui, il y a toujours un guide sur cette horloge. Il y a des dizaines de petites horloges qui sont conçues, alors à une échelle plus imposante, plus grande. Évidemment, tous les mécanismes sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus importants. Mais on reste toujours dans la faisabilité et dans la réfection de choses qui sont ou usées, ou encore plus embêtants, qui sont complètement obsolètes et là qu'il faut refaire. Et là, effectivement, pour faire ces objets-là, il ne faut pas oublier qu'à un moment, il faut aussi concevoir des appareils pour pouvoir les faire. Beaucoup de choses sont faites à la main, bien évidemment, mais il faut aussi concevoir au départ, c'est ça qui est incroyable aussi, tous les appareils pour pouvoir faire cette horloge.
Et on remonte ces horloges, c'est une horloge, même l'horloge astronomique, il faut la remonter. Il y a une action mécanique à produire pour que l'énergie ensuite puisse se libérer dans le temps. Et vous avez travaillé, vous êtes formé sur des montres qu'on remontait également. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui a presque disparu.
Oui, on en a parlé. C'est vrai que depuis 40, 45 ans, le quartz a changé la donne à ce niveau-là. Je crois qu'actuellement, 99% de la population mondiale a une montre sur soi, ou 90%. Et sur ces 90%-là, tout le monde, les jeunes un peu moins peut-être, mais tout le monde a une montre à quartz, électronique. Mais il existe encore des fabricants de belles pièces, de pendules anciennes, de montres sur de la partie mécanique, effectivement. Alors, ce ne sont pas tout à fait les mêmes coûts ni les mêmes choses à voir. Mais par contre, quel plaisir de pouvoir avoir et de voir ces mouvements-là. Moi, c'est un régal quand je vais visiter un musée. On parlait du musée de la Chaux-de-Fonds avec Mme Viellard ou votre collègue qui a été le visiter il y a quelques années. Bah, là, pareil, il y a des objets incroyables.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'horlogerie moderne, en tout cas dans celle que vous pratiquez, les textes ont leur place ? Est-ce qu'on prend soin de choisir des textes ?
Alors, un petit peu. Essentiellement, dans mon cas, sur des pendules qui m'arrive en réparation et qui arrive sur l'atelier de Strasbourg également, il y a souvent des petites choses inscrites. Ça peut être des fois qu'une simple date, mais il peut y avoir également quelques petits mots, souvent latins quand c'est très ancien, avec un petit mot aussi, ou deux, trois mots, ou quelques initiales. Alors je ne fais pas toujours, je dois le reconnaître, la démarche de regarder, ou de comprendre, mais il y a souvent voilà, et on peut retracer l'avancée d'une pendule sur les 100, 200 ou 250 ans qu'elle a vécu. Et on peut voir dans beaucoup de montres, ça se fait systématiquement, et dans certaines pendules, on peut retracer les moments où ces pendules et ces objets ont été réparés par un horloger qualifié.
Les humanités dans le texte, un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Nous sommes de retour avec la coordinatrice de ce dossier et du podcast que nous consacrons à l'horloge astronomique de Strasbourg, Delphine Viellard, qui a travaillé longtemps, de longs mois, avec ses élèves, avec des collègues, avec des personnes qu'elle ne connaissait pas au début de cette aventure, pour fabriquer ce dossier Odysseum et ce podcast Humanité dans le texte aujourd'hui. Delphine Viellard, pouvez-vous nous décrire votre sentiment après ce travail au long cours ?
Alors, mon projet, à l'origine, était de montrer aux élèves qu'il y avait des textes latins non encore traduits, et donc le latin devait être appris pour des raisons utilitaires, et que ce n'était pas pour retraduire des textes qui avaient déjà été traduits 10 fois, mais que c'était nécessaire à l'avancée de la science. Et je voulais aussi montrer que le latin n'était pas seulement une langue pour des littéraires, mais aussi pour des scientifiques. Et je voulais absolument travailler avec des scientifiques, ce que j'ai fait, puisqu'on a travaillé avec un professeur de l'ENS, spécialisé en horloge astronomique.
Alors, vous n'êtes pas seulement enseignante de lettres classiques, vous êtes aussi présidente de l'Association des professeurs de langues anciennes de l'Académie de Strasbourg. Pourquoi est-ce important, aujourd'hui, à l'ère du numérique, de promouvoir les lettres classiques ?
Le but de notre association est de réfléchir à une nouvelle pédagogie du latin et du grec, et donc de soutenir des projets tels que Humanité dans le texte, qui est justement un projet innovateur qui met le latin et le grec à la portée de lycéens qui aiment utiliser le numérique. Alors, notre association relaie des projets pédagogiques, elle scinde nos collègues de toute l'académie, mais elle organise aussi des conférences grand public à l'intention de tous les amoureux des langues anciennes. Et donc, nous organisons, en collaboration avec d'autres associations strasbourgeoises, des conférences sur des auteurs latins ou des auteurs grecs. Et moi-même, je suis enseignante à l'Université populaire de grec ancien, et j'ai devant moi un public d'adultes amoureux des langues anciennes, amoureux du grec, qui désirent progresser, commencer aussi pour certains, et donc renforcer leurs connaissances en grec.
Alors l'amour s'est invité dans ce podcast, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises. Comment est-ce qu'on tombe amoureux des langues anciennes? Comment êtes-vous tombée amoureuse?
Donc, j'ai commencé le latin en quatrième et je me souviens d'avoir eu accès à mon livre avant même les cours et d'avoir lu justement le subjonctif présent du verbe « amo » et c'était « amem, ames, amet, amemus, ametis, ament ». Et c'est mon premier contact avec le latin. Et comme j'ai peut-être des problèmes de dyslexie, j'avais lu « amen ». Et donc, je me souviens avoir dit à mon grand-père, « Tu sais, amen, ça vient du latin ». Mais c'est quand même le premier contact que j'ai eu avec le latin, donc vous savez pas si bien dire que de dire que je suis tombée amoureuse du latin.
Merci Delphine Viellard et merci à tous les intervenants et toutes les intervenantes de ce deuxième épisode du podcast consacré à l'horloge astronomique de Strasbourg, à commencer par votre collègue Sonia Cady et ses élèves Sarah, Lino, Mathis et Raphaël. Merci aussi à Nan Maël pour sa visite guidée à distance de l'horloge et à Guy Schmitt pour son témoignage d'homme de l'art, art de l'horlogerie bien sûr. Dans l'habillage sonore, vous aurez peut-être reconnu des extraits de la bande originale de la série Desperate Housewives, composée par Steve Jablonski, mais également la chanson de l'horloge de la comédie musicale de Philippe Châtel et Émilie Joly, un peu plus loin la chaconne de Pachelbel, interprétée par Marc Baumann au grand orgue de la cathédrale de Strasbourg, le voisin de notre horloge, et enfin les dédales de Carole Beffa que vous entendez en ce moment même. Ce podcast vous a été présenté par Émile Gaillozo sous la responsabilité scientifique d'Ankadan. Petite pause estivale pour les humanités dans le texte, mais on se retrouve en septembre pour de nouveaux épisodes.